8h23, la revue de presse des journaux français. Frédéric Couteau, bonjour.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une, Macron dans les starting blocks.
Oui, si certains en doutaient encore, le ministre de l'économie a confirmé et amplifié hier ses ambitions présidentielles avec un discours enflammé à Orléans à l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'hommage à Jeanne d'Arc. Une attitude et un discours abondamment commentés ce matin par les journaux. Le Figaro, tout d'abord, estime qu'Emmanuel Macron a opéré à Orléans une nouvelle transgression idéologique, plus encore qu'historique. En ce 8 mai, le ministre de l'économie a défendu une identité française qui ne se limite pas aux deux siècles de république, comme la gauche voudrait souvent l'enfermer. Certes, cette identité française qu'il exalte se veut ouverte, accueillante à l'autre et en particulier aux plus fragiles. Voilà pour montrer qu'on peut être de gauche et assumer toute l'histoire de France. Cette leçon d'unité, de continuité sur le passé est évidemment une illustration de la méthode que Macron rêve d'incarner dans le futur, pointe le Figaro. Que ce futur soit très proche ou un peu plus lointain, unité, réconciliation, dépassement des clivages, finalement, pour écrire son discours politique, le ministre de l'économie trempe sa plume dans l'encre gaulliste plus que dans l'encre marxiste.
Emmanuel Macron poursuit par petites touches son autoportrait politique, constate également les Échos.
À Orléans, il y a ajouté du souffle et un sentiment national jusqu'ici absent. Un autoportrait qui est loin d'être fini, relève le quotidien économique. L'homme est en marche, mais depuis un mois, le pas ne fléchit pas. Emmanuel Macron peut bien assurer le matin sur les Champs-Élysées qu'il n'y a pas de malaise avec François Hollande. Il poursuit au fond comme s'il n'était pas là. Il parle de la France et s'attelle à tisser un récit national quand le chef de l'État, lui, a tant de mal à le faire. Il s'empare de l'identité républicaine, cher à Manuel Valls, en l'attirant vers quelque chose de positif, un espoir. Le drapeau blanc brandi, il prospère sur tout ce que ses supérieurs à gauche ne sont pas ou plus. Pour l'Alsace, c'est clair, le ministre de l'économie ne cache plus ses ambitions. L'histoire dira si l'aventure présidentielle d'Emmanuel Macron a débuté par le discours d'Orléans et l'ode à Jeanne d'Arc, mais en ce chaud 8 mai, c'est bel et bien une déclaration d'amour au pays qu'a entonné Emmanuel Macron avec un discours truffé d'allusions à son propre parcours et à ses ambitions. De cette France déchirée, coupée en deux, agitée par une guerre sans fin, la capacité de Jeanne d'Arc à rassembler le pays dans un mouvement que rien n'imposait et sa détermination à fendre le système, l'ancien banquier d'affaires a endossé l'armure du candidat à l'élection présidentielle.
Libération, pour sa part, reste sur la réserve.
Avec Jeanne d'Arc, Macron attend des voix. Titre ironiquement Libé, le ministre de l'économie qui, depuis le lancement le 6 avril de son mouvement En Marche, ne rate pas une occasion de faire entendre sa différence, avait ce dimanche une opportunité unique de peaufiner son image de possible présidentiable face aux quelques 70 journalistes, photographes et caméramans qui avaient fait le déplacement. L'ambitieux ministre, pointe Libération, a fait un parallèle entre son action et celle de la pucelle qui a libéré les énergies en toute modestie. Le vœu est clair et le défi lancé, il pourrait valoir au ministre un nouveau procès en égotisme. Emmanuel Macron le sait, qui tente d'y couper court. Il n'y a pas d'homme ou de femme providentielle, a-t-il dit. Je n'y crois pas. Il n'y a que l'énergie du peuple. Et Libération de s'interroger. Humilité feinte ou bien vraie profession de foi. Pour l'humanité, plus les projets collectifs sont affaiblis, plus les vendeurs de nostalgie cherchent un public. Macron n'échappe pas à cette duperie. Quand Nicolas Sarkozy glorifie Guy Môquet, quand Marine Le Pen ose puiser ses références verbales chez Jaurès et De Gaulle, quand Manuel Valls se compare à Clémenceau, quand François Hollande se permet de modifier la nature même des commémorations du 11 novembre, ou quand Macron s'empare de Jeanne à des fins très personnelles. Attention, danger, s'exclame le quotidien communiste. Ce genre de mésusage des faits historiques qui promeuvent l'apologie d'une France éternelle d'hier nous éloigne souvent de la République de demain. En tout cas, conclut Lacroix, à Orléans hier, le discours de Macron était bien davantage que celui d'un ministre. Il s'est placé dans une position d'élan et de rassemblement. Mais ce lundi, il va retrouver son bureau de Bercy et sa place, parmi d'autres, dans l'équipe de Manuel Valls. Il ne pourra pas longtemps jouer sur les deux tableaux. Soit il faudra qu'il prenne le risque de s'émanciper des contraintes gouvernementales pour tenter de bousculer la vie publique, soit accepter au moins pour un certain temps une hiérarchie politique plus coriace qu'il n'y paraît.
À la une également, le plan anti-djihad de Manuel Valls, le grand dossier du Parisien.
Entouré d'une ribambelle de ministres, intérieur, justice, défense, éducation nationale, recherche, santé, culture, jeunesse et sport, le chef du gouvernement présentera ce matin la feuille de route du comité interministériel pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Un catalogue de 80 mesures, plus ou moins inédites, pointe le Parisien, qui vont de la mobilisation des armées sur le terrain à la meilleure prise en charge des victimes de terrorisme et qui révèle surtout le souci d'associer le plus grand nombre d'acteurs de la société publique comme privée, laïque, mais aussi religieux à cette problématique.
Enfin, cette question, dans le Figaro, la RD Congo est-elle le malade incurable de l'Afrique ?
Potentiellement très riche, mais déchiré par les querelles de pouvoir et infesté de groupes armés, le pays a le plus grand mal à trouver le chemin de la paix, constate le Figaro. La nouvelle crise politique qui secoue le pays est née de la volonté du président de s'accrocher au pouvoir. À la tête du pays, en effet, depuis 2001. Élu en 2006, puis réélu en 2011, Kabila doit, selon la Constitution, quitter ses fonctions à la fin de l'année. Des élections sont théoriquement prévues en novembre. Théoriquement, s'exclame le Figaro, car à 7 mois de l'échéance, aucun calendrier n'a encore été publié et Kabila pourrait bien faire encore durer le suspense. Résultat, relève le Figaro, une protestation de la rue contre un pouvoir très critiqué pourrait conduire à des violences à Kinshasa, la capitale, et à Lubumbashi, le fief de Katumbi, le principal opposant. Les plus pessimistes redoutent que le pays replonge dans l'instabilité, alors que les provinces de l'Est demeurent la proie de conflits depuis maintenant plus de 20 ans.
Merci Frédéric Couteau. Cette revue de presse est à retrouver sur RFI.fr. Vous restez avec nous dans un instant. L'actualité africaine sur RFI.